dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Emmanuel Giuliani et Anna Sigalevich se font face à notre affiche « Une soirée à l'opéra » avec Cavaliera Rusticana de Pietro Mascagni, suivi de Sancta Susanna de Paul Hindemith, dirigé par Carlo Rizzi, mise en scène Mario Martone, et deux disques, les suites françaises de Jean-Sébastien Bach par Murray Peraya et Oh Boy de Marianne Crébassa. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour parler de l'émergence des voix africaines sur les plateaux lyriques. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour aller voir le film Ma Rosa de Briente Mendoza, actuellement en salle. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant à l'Opéra de Paris, salle Bastille, pour y découvrir donc un double programme composé de deux opéras en un acte, Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni et Sancta Susanna de Paul Hindemith, soit une tragédie sicilienne créée en 1890 et une passion religieuse très sensuelle créée en 1922, deux œuvres de jeunesse de leurs compositeurs respectifs, réunies dans une mise en scène de Mario Martone qui avait créé la mise en scène de l'ouvrage de Mascagni à la Scala de Milan et qui fait ses débuts, le metteur en scène à l'Opéra de Paris, avec donc également cette nouvelle production du très court opéra de Hindemith. Pour se mettre dans l'ambiance, vous écoutons tout de suite. Peut-être faut-il, comme vous avez choisi l'extrait, le situer, l'extrait que vous avez choisi pour Cavaleria Rusticana. Vous n'avez plus aucun souvenir, hein, Emmanuel Giuliani.
Non, je n'ai plus souvenir. Je sais que c'est, que c'est le deuxième extrait des deux que nous a envoyé l'opéra, ce qui est très intéressant pour nos auditeurs.
Mais on s'arrêtera là.
Et que l'on va entendre la voix de Turiddu et de sa mère.
Ah bah c'est
mais
pas
je
mal
ne sais
déjà.
Plus si c'est au début ou si c'est avant Quel vino generoso, je ne sais plus.
Peu importe, vous avez donné les indications
Quelle
essentielles.
Honte.
Alors si je ne sais pas où se situe l'extrait, puisque je n'ai pas vu cette production, ça a commencé hier soir les représentations en tout cas, et il est triste, hein, il est triste ce jeune homme qu'on vient d'entendre, Anna Segalevich, il pleure.
Ah bah oui, il pleure, mais parce que c'est pas très marrant ce qui va lui arriver dans cet opéra. Ça va très mal finir pour lui.
Mais il doit le pressentir alors.
Bah il le pressent, oui, oui. Écoutez, moi c'est une production qui m'a plutôt plu, pas de façon évidente. C'est-à-dire que en regardant l'œuvre, j'étais intéressée du début à la fin, voilà, une œuvre puis l'autre. Et je dois dire qu'en fait, comme c'est tout frais, c'était donc hier soir, je suis assez curieuse de savoir comment ça va évoluer en moi, qu'est-ce qui va me rester. Mais je trouve qu'il y a de l'intelligence, en fait, dans cette mise en scène, qu'il n'y a pas de volontarisme dans les liens qui sont tissés entre une œuvre et l'autre, c'est pas tiré par les cheveux. Et, comment dire, on fait confiance en l'intelligence du spectateur, en lui disant, voilà, il se passe ça, et après, vous vous racontez aussi un peu votre histoire. Et il y a une résonance et il y a des liens qui se mettent en place de façon, je trouve, intéressante. Alors, pour...
Cavalleria.
Voilà, Cavalleria Rusticana. Donc, ça commence d'ailleurs de façon simple. Pas de fausses bonnes idées ou de vraies bonnes idées, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est
pas
simple.
Pas d'idées du tout,
voilà.
À mon avis. Mais
là,
enfin, on
au début, pas de... Effectivement, donc pas de... Pas de fausses idées. Enfin, pas d'idées. Enfin, ce que vous voulez. Peu importe.
Enfin, elle
donc,
le dira.
Rideau noir.
C'est pas mal comme début.
Rideau noir. Puis on entend la sicilienne, donc justement du ténor qu'on vient d'entendre, des coulisses, rideau fermé, et à ce moment-là, le rideau s'ouvre. On a un plateau qui est complètement dégagé, il n'y a absolument rien dessus, et puis va passer de cour à jardin, une sorte de décor ambulant, une pièce qui ressemble à une maison close, à un bordel, enfin voilà, donc on voit des jeunes femmes assez lascives et des hommes qui défilent, et ça traverse de cour à jardin et ça disparaît. Et ça ne réapparaîtra plus jamais d'ailleurs, ce décor. On voit à l'avant-scène un homme qui se fait tailler la barbe.
Rasé,
voilà, par un barbier.
Taillé ou rasé d'ailleurs, c'est pas la même chose en fait.
Rasé, je dirais.
C'était un peu loin, je vous me demander trop de détails. Vous pensez rasé? Ah, vous êtes plus près que moi, c'est vrai.
Voilà, il me semble.
Y avait-il de la mousse?
Bon. Oui, il y avait rasé,
alors,
une grande
voilà.
Dextérité du barbier qui fait ça en un temps record. Il faut dire que c'est un opéra court, donc il faut aller vite, mais très bon barbier.
Voilà. Et ensuite, donc il y a vraiment le chœur qui rentre. Ce sont d'abord des femmes qui rentrent avec chacune leur chaise, qui s'installent, puis des hommes. Et là, dans la mise en scène de Mario Marton, le chœur a une place très très importante parce qu'ils sont en scène absolument tout le temps, du début à la fin. Donc on est dans une église, on est à la messe, c'est le jour de Pâques.
Le jour de Pâques, oui.
Et le chœur est au départ donc face au public, ils sont assis comme ça, c'est avant que la messe commence. Donc il y a une vie comme ça de village, et on sent, je trouve, le fait que le chœur soit, que l'église et que le religieux soit vraiment au cœur de cette vie de village. Et ensuite, le chœur va se retourner pour être face à l'autel avec un grand crucifix en fond de scène. Voilà. Il y a presque que ça, en fait, comme décor, mais ça a une place qui est très importante et ça raconte, enfin, je trouve que ça a du sens. C'est pas un décorum, cette présence du chœur, comme, par exemple, je l'ai ressenti, moi, dans...
Lucia.
De Lucia. Voilà, merci. De Lucia, où il y a aussi beaucoup de personnes autour, mais je trouve que ça joue pas. C'est un pur décorum. Là, il me semble que ça a du sens. Voilà, pour... Décrire un petit peu.
Voilà, un décor qui est planté. C'est bien, comme l'émission fait 4 heures ce soir, on va pouvoir développer. Non, je plaisante. Le temps file déjà. Vous disiez pas d'idée au départ, Emmanuel
oui,
Giuliani.
Alors évidemment, c'est pour.
Pas forcément
c'est un
emballé.
Peu rapide. Alors, l'idée de coupler Cavalleria Rusticana et Santa Susanna est une idée qui était stimulante, alléchante. C'est vrai que Cavalleria, on le couple très souvent avec Payas de Léon Cavallo. Et c'est une tradition, donc on ne se pose presque plus la question si ça marche, si ces deux opéras marchent ensemble, et quand on y réfléchit bien, on se rend compte qu'ils ne marchent pas si bien. Alors que là, même si on n'est pas du tout dans les mêmes esthétiques, même si des années séparent les deux œuvres, puisque In de Mitte naît 5 ans après la création de Cavalleria, et l'œuvre date de 22, si je ne me trompe pas, donc on n'est pas du tout dans les mêmes esthétiques, mais il y a une noirceur, un tragique, un rapport au sensuel, voire au sexuel, l'oppression de la femme, la seule façon de s'en sortir, c'est de sortir des limites sociales ou de la raison, etc. Donc il y a des familiarités entre les deux œuvres qui qui sont intéressantes. Et à vrai dire, moi, je m'attendais, peut-être forte de l'expérience du château de Barbe Bleue qui enchaînait avec La Voix humaine, et puis du doublé Yolanta Casse-Noisette, de ne pas avoir de solution de continuité entre les deux. Et je trouve catastrophique de baisser le rideau à la fin de Cavalleria. On applaudit pas, c'était pas enthousiaste, mais quand même, ils viennent saluer, le cœur, le machin, le truc, on se réaccorde, les gens bavardent, et après on lance Santa Susana.
Alors, ça, oui, Santa Susana, c'est très très court, c'est 20 minutes, c'est ça?
Oui, oui. Mais on
enchaîne. On peut pas faire un entracte.
Ah, mais pas d'entracte, je voulais qu'on enchaîne. Enfin, je voulais.
Bah,
enfin,
mais dites-le.
J'imaginais.
Il y a un décor à mettre en place,
mais
pour le coup.
On se débrouille. Oui, oui. C'est leur boulot. Ils sont, à mon avis, payés suffisamment pour avoir le temps de travailler ce genre de choses-là. Alors, je ne comprends pas l'intérêt de mettre ces deux œuvres si on coupe par tout le cérémonial, des applaudissements, etc. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, je trouve, au point de vue mise en scène, que Mario Martone a fait exactement l'inverse de ce que, à mon avis, mais encore une fois, c'est mon avis, je le partage, mais il ne concerne que moi, avec moi-même, je trouve qu'il fait l'inverse. C'est-à-dire, il épure complètement Cavalleria. Il le dit d'ailleurs très bien, en termes très clairs, dans le programme, pour enlever tout le côté couleur locale, italien, etc. Ce qui est une facilité, comme les gens qui font Carmen en disant « j'enlève tout ce qui est espagnol ». À la fois, c'est pour dire « on va au-delà, c'est de la tragédie grecque », mais c'est aussi parce que on veut pas non plus s'attaquer au côté qui risque d'être un peu kitsch, mais qui fait partie de l'œuvre, il faut y aller. Et au contraire, dans Santa Susana, il montre absolument tout. Il me semble qu'au contraire, là, il faudrait être complètement dans la suggestion, dans les images, puisqu'on est dans des visions, et pas voir une grosse araignée, pas voir un crucifix, pas voir une femme nue, pas voir... etc. Donc, je trouve qu'il a complètement inversé la proposition et que ça fait flop.
Alors, on va parler de Santa Susana dans un instant, après en avoir écouté aussi un court extrait, mais restons alors musicalement sur Cavalleria Rusticana, Anna Segalevich.
Elina Garancia, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Vraiment, c'est alors en plus, c'est pas évident ce qu'ils ont à faire, je trouve, les héros, parce que donc il y a beaucoup d'énergie qui est concentrée sur le cœur, sur la famille, enfin sur le village, sur l'église, sur la messe, et eux sont finalement en marge et tout se joue à l'avant-scène entre eux et c'est vrai qu'Elina Garancia, franchement, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait, c'est impressionnant.
Prévenons qu'il y a une alternance pour les deux premiers rôles, sur cette production.
Oui, absolument. Donc pour la première hier, c'était Elina Garancia qui a une amplitude, un timbre, une voix qui est toujours couverte, quelque chose qui est fruité, qui est très intérieur aussi. Je veux dire, elle a une puissance dramatique qui est très forte. Et c'est vrai qu'elle domine largement cette distribution parce que vocalement, ils sont pas tous, à mon sens. À son niveau, c'est vrai qu'elle domine clairement la distribution. Le ténor Yung Gun Lee, bon, il fait le job, hein, il y a pas de problème, mais je le trouve un peu tout d'un bloc. C'est-à-dire que voilà, c'est très en force.
C'est old school, hein, voilà. On a entendu l'extrait.
Et en plus, il est par moments un peu couvert par l'orchestre, c'est-à-dire qu'il est pas si puissant que ça. Et puis, il y a pour moi, il y a un manque de sensibilité, de finesse, d'incarnation. Enfin, il y a un manque de chair. Je veux dire, le désir, je le sens pas.
Mais sont-ils aidés par Carlo Rizzi qui dirige l'orchestre?
Alors, Carlo Rizzi, pour moi, dans Cavalleria Rusticana, c'est assez joli ce qu'il fait. J'ai aimé le prélude de départ parce que ça c'est assez animé, c'est assez souple. Voilà. Après. C'est pas bourré d'idées, voilà. C'est pas hyper coloré, c'est pas extrêmement riche. C'est bien fait, c'est joli, mais il y a pas de grande émotion à mon sens musical.
Partager cet avis, Emmanuel
Jouani. Sur la voix de Elina Garancia, absolument, c'est une voix. Elle peut tout faire. Elle chante fort, elle chante piano, elle chante grave, elle chante avec la même voix. Enfin, c'est absolument magnifique. Elle a un gros défaut, c'est la prononciation. On ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. C'était pareil en français, en italien, comme c'est un livret très resserré où on répète beaucoup les mêmes choses. Donc on dit la première fois, j'ai pas capté le mot, mais comme elle va le répéter. Et vraiment, il y a aucune arête dans l'articulation. Et ça, une artiste de ce niveau-là, c'est vraiment dommage. Parce que ça, c'est un très gros défaut, alors qu'autrement, elle n'a que des qualités, elle est très belle, et dans l'absence totale de direction d'acteur soliste, elle s'en sort, parce qu'elle n'est jamais ridicule, elle est belle, elle a de belles attitudes. Le pauvre ténor, il n'est pas non plus dirigé. Donc, lui, il a des gestes un peu de... Comment on appelait ça quand j'étais petite, d'expression corporelle. On met les bras en avant, on revient à gauche, à droite, etc.
Non, c'est la méthode Nordée, ça s'appelle maintenant.
D'accord, très bien. Alors, il a dû suivre un stage, mais ça ne va pas du tout. Et puis, alors, lui, peut-être qu'elle, elle a dit, moi, je refuse d'aller chanter derrière, sur un immense plateau nu, je serai en avant-scène tout le temps. Lui, le malheureux, notamment ce qu'on vient d'entendre, sa scène finale, il l'a fait au milieu de la scène, une scène entièrement vide. Et en effet, sa voix ne porte pas. Mais là, on ne met pas dans cette immense Bastille un chanteur qui a cette partition à chanter avec un orchestre un peu mollasson en dessous, si loin. Je veux dire, bon, là, ça me semble aussi une très grosse erreur. Là.
Mais pour parler du chef, et je vais vous redonner la parole dans un instant, on va écouter avant cela un extrait du second opéra à l'affiche de cette soirée, Sancta Susanna de Paul Hindemith. Sancta Susanna, deuxième opéra, cette affiche de l'Opéra de Paris. Alors, musicalement, pour commencer, Emmanuel Giuliani, comme on vient d'entendre cet extrait.
On voit qu'on est dans l'univers du paroxysme.
C'est comme c'est bien dit, encore.
Alors, vous demandiez pour Carlo Rizzi, moi j'ai trouvé que son Cavalleria n'avait pas cette passion, cette flamme et ce remplissage de toutes les notes qu'il faut avoir, qu'on sente une espèce de tension, il me semble qu'on ne l'avait pas. On l'a plus dans la musique d'Hindemith. Mais la question que je me pose, c'est à partir du moment où on a un grand orchestre comme est l'Orchestre de l'Opéra de Paris et qu'on joue ce qui est écrit, est-ce qu'on peut le rater ? Tellement cette musique est foisonnante, tellement l'orchestration est là. Enfin, il me semble que c'est quasiment inratable quand on a les moyens de la jouer du côté de l'orchestre. Et c'était le cas avec peut-être quelques tendances à certains moments à couvrir les chanteurs, notamment Anna Katharina Antonacci. Mais là, c'était vraiment un péché véniel par rapport, me semble-t-il, à la fadeur de Cavalleria.
C'est pas évident quand même pour un chef, pour un orchestre, d'enchaîner deux œuvres comme celle-ci.
Non, bien sûr. À la fois, j'imagine que c'est très intéressant parce que dans bien les sûr. Deux, même s'il y a des grands moments de lave musicale, il y a aussi des transparences orchestrales, il y a aussi beaucoup un jeu sur des scintillements, Et je pense que pour l'orchestre de l'Opéra de Paris, c'est très intéressant à faire. Ça l'aurait peut-être été encore plus, je vais radoter, s'ils avaient enchaîné les deux. Je referme cette parenthèse, parce que ça va devenir obsessionnel. Musicalement, vocalement, Anna Katharina Antonacci, elle n'a plus la voix de sa pleine apothéose, mais elle a encore cette présence scénique, cette intelligence musicale, cette ferveur, cette façon de vous scotcher, même à la limite si elle parlait son rôle, ce qu'elle fait pas du tout, elle chante encore et on reconnaît ce timbre tellement caractéristique, elle est absolument somptueuse.
Elle est pas faite pour des salles comme Bastille, de toute façon,
depuis
toujours.
Non, mais là, ça va parce que le dispositif scénique, comme c'est une cellule, là, c'est tout en avant scène aussi. On a l'impression qu'on a un peu recyclé la chambre mortuaire de Werther dans le Werther de Benoît Jacquot, mais qu'on a avancé un peu plus.
C'est vrai.
Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, elle a la distribution vocale globalement, il y a trois personnages, est très bien. Et on entend pendant peut-être 10 mesures Sylvie Brunet. Et comme toujours, Sylvie Brunet, c'est... Mais faites chanter Sylvie Brunet.
Plus que 10 mesures, oui, ce serait mieux.
Enfin, voilà, là, le rôle est 10 mesures, mais en ces 10 mesures, on se dit, mais c'est la musique.
Anna Sigalevitch, de façon synthétique, sur ce second ouvrage.
Sur ce second ouvrage, mais moi, ça m'a plu. Et encore une fois, j'ai aimé celui-là après l'autre. Donc, ce sont deux héroïnes. Ce qu'elles ont en commun aussi, c'est qu'elles lèvent le voile. Ce sont, voilà,
tous les sens du terme.
En préfiguré. Hein,
ça, c'est une blague d'initié, puisque bon, il s'agit de lever le voile qui couvre...
Dans Cavalleria,
la pudeur du Christ.
Bah, dans Cavalleria, elle lève le voile parce que elle révèle ce qui est caché. Voilà. Et dans Santa Susanna, bien sûr. Donc, elle enlève d'abord son propre voile et le voile, du Christ qui est sur ses reins. Elle lui enlève. Voilà. Alors là, on a un décor inversé. Donc, avec le décor nu du départ, là, c'est une sorte de grand mur nervuré. Mais je vais être courte. Moi, j'ai aimé Emmanuel. C'est symbole fort, grand, etc. Parce que je ne les trouve pas lourds. Je trouve que ils se promènent chacun dans à leur place sur le plateau. C'est une demi-heure. On peut pas, enfin, je veux dire, en une demi-heure de raconter une histoire avec des symboles très forts, c'est pas évident. Et je trouve que ça se passe très bien, en fait. Et pour tout vous dire, j'en ai rêvé cette nuit pour vous dire que ça a travaillé en moi. Voilà. Et le côté, tout est caché, emmuré, et à un moment donné, le plateau le décor tombe, et on voit en dessous une sorte de cérémonie obscure, de messe, comme ça, presque satanique, qui va avoir lieu. Moi, je trouve ça très réussi. Vraiment, j'ai été absolument séduite du début à la fin par Santa Susanna.
Très bien, voilà pour un esprit synthétique. Mais tout à l'heure, vous ne me direz pas, on n'a pas eu le temps de parler de Murray Perahia et Marianne Cramassa, parce que ce sera le cas, on aura moins de temps. Mais il était important de prendre ce temps pour parler de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Vous voulez rajouter quelque chose encore?
Oui, juste qu'il y a un petit côté narcisse noir de Michael Powell, je trouve.
Oui, bon, il ne faut quand même pas exagérer.
Beaucoup moins beau.
Là, vraiment, on ne peut pas convoquer des choses pareilles, Anna
Sigalevitch. Si, je convoque, moi, excusez-moi, je l'ai
pensé. Convoqué. Alors, Sancta Susanna, c'est Pauline de Mitte, la direction Carlo Rizzi, la mise en scène Mario Marton. Et à l'Opéra Bastille jusqu'au 23 décembre et à écouter sur France Musique le 25 décembre à 20h.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, donc Murray Perahia et Marianne Cremassa. Avant cela, Lucille Como, direction Le Petit Salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, des voix africaines.
Oui, il y a quelques jours, apparu dans le journal Jeune Afrique, un article sur les grandes voix lyriques africaines. Alors, l'article cite, entre autres, le baryton camerounais Jacques Greg Belobo, les contre-ténors marocains Rachid Ben Abdelslam et congolais Serge Kakoudji, mais surtout un certain nombre de musiciens sud-africains, parmi lesquels Preti Yende, qu'on a vu récemment en France dans le rôle de Lucia di Lammermoor, ou encore la soprano Pumeza Machikiza, dont le premier album paru l'année dernière avait fait grand bruit. En l'occurrence, cet album s'appelait Voice of Hope et donnait à entendre un programme éclectique de grands airs, Puccini notamment, dans lesquels elle avait fait ses débuts sur scène, et puis des airs traditionnels des townships. Un programme et une voix très remarquée, et ses origines n'étaient pas pour rien dans cette reconnaissance rapide et quasi unanime de la presse. Le Figaro titrait avec peut-être un brin de simplisme Pumeza Machikiza, la diva des townships. Je m'interroge ainsi sur la stratégie mise en place par la chanteuse et surtout sans doute aussi par ceux qui la représentent dans les vastes affaires de l'opéra, cette stratégie qui consiste à mettre en avant ses origines réputées doublement minoritaires dans le milieu, africaine et pauvre, puisque la jeune chanteuse est née dans les bidonvilles de la ségrégation sud-africaine. Il est vrai que l'histoire est séduisante, je le rappelle, Phumeza Machikiza aurait entendu, adolescente, un air d'opéra pour la première fois par hasard à la radio. Elle chantait alors sans solfège dans des chœurs à l'église et n'aurait pas su lire une partition avant ses 21 ans. Autre chose remarquée dans ces différents portraits, le fait que tous ces chanteurs, quasiment, aient quitté le continent africain pour accéder au conservatoire en Europe ou aux États-Unis. En l'occurrence, Phumeza Machikiza a commencé à apprendre à Cape Town, où apparemment il y a une grande école de chant, mais elle est vite partie passer des auditions en Angleterre, où elle a finalement étudié pendant 7 ans au Royal College of London. Un de ses projets est d'ailleurs de lever des fonds pour construire une école de musique dans son ancien quartier, et on touche sans doute là à la question la plus cruciale, à savoir la question de la formation. Quand on jette un coup d'œil à la liste des écoles supérieures de musique dans le monde, il y a une liste de Wikipédia très bien faite, une écrasante majorité se situe en Europe et aux États-Unis, plusieurs en effet en Afrique du Sud, d'où la présence, on peut l'imaginer, de plusieurs chanteurs de cette origine sur les grandes scènes, quelques-unes dans les pays du Maghreb, mais presque pas en Afrique de l'Ouest, encore moins en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, comme d'ailleurs toutes les structures culturelles, la musique ne fait pas exception. Les chanteurs africains font, eux, tellement figure d'exception que chaque sortie discographique ou distribution dans une grosse production donne lieu à des remarques de ce type, la diva des townships. Espérons qu'un jour, ni la presse, ni les labels, ni les scènes ne capitaliseront là-dessus.
Oui, mais alors, cette émergence, c'est un fait visible, c'est le moins qu'on puisse dire, là. C'est la façon dont c'est raconté, Emmanuel Giuliani.
Mais c'est-à-dire, oui, c'est le storytelling, comme on dit, je crois, pour beaucoup de domaines et pas que culturels. Mais c'est un peu ce qu'on a fait, par exemple. Je pensais, en vous écoutant, Lucille, au cas de Gustavo Dudamel, dont avant de dire ça va être l'orchestre de Los Angeles ou les Berliners ou etc., dirigé par Gustavo Dudamel, on disait, vous savez, ce chef sorti du système El Sistema, ce système qui permet aux enfants pauvres, ce qui n'était pas son cas à lui. Enfin, voilà. De la même manière, là, j'y pense, parce que sur votre excellente antenne de France Culture, en ce moment où très bientôt il y a un avoué nu de Barbara Hendricks, quand Barbara Hendricks raconte son enfance qui était avec son père pasteur, sa mère institutrice, entre la maison, l'église et l'école en province, ignorante jusqu'à ce qu'elle les découvre violemment à la télévision des questions de ségrégation. Et après, on a raconté que le parcours de cette fille, cette petite fille et cette jeune fille venant là aussi d'un milieu, alors pas défavorisé, mais un milieu simple où il n'y avait pas d'argent dans la famille. Voilà, on aime raconter ces histoires, à la fois avec un sentiment de culpabilité, sans doute un sentiment aussi un peu flatteur de se dire, bah, vous voyez, les grandes scènes occidentales, maintenant, elles accueillent ces... Pretty Yende, on en parlait avec Anna tout à l'heure, qui a fait une formidable Lucia. Donc, bien sûr, tout ça est un peu ambigu, mais on peut pas s'empêcher de même que quand Grace Bunbury a été la première à chanter Vénus dans Tannhauser à Bayreuth, la première femme noire à chanter à Bayreuth. Voilà, on cite ces cas-là. Et comme vous dites, ce qu'il faut espérer, c'est que c'est une porte ouverte à ce qu'on n'en parle plus. Et maintenant, Dudamel, c'est Dudamel.
Voilà. Côté chant, vous avez cité que des femmes.
Non, à part Dudamel. Vous. Ah oui, pour côté chant.
Vous, Lucille Gombeau.
Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, on pourrait parler.
Masculine, mais plus rare.
On pourrait parler de Willard White, on pourrait parler.
Sir Willard White.
Bien sûr.
Sir Willard White. Oui, mais c'est vrai que ces figures émergentes, et c'est peut-être aussi dans le storytelling, pour reprendre ce mot, il faut que je cherche l'équivalent québécois.
Mais est-ce que de manière générale, les chanteuses ne sont pas plus valorisées dans les médias et que les chanteurs?
Je sais pas, moi j'ai
Jonas.
C'est
Robert
Niro.
Non,
ça c'est pas vrai. Pretty Yende, pour en dire un mot, puisque vous l'avez découverte, vous,
l'histoire n'est pas très loin finalement, hein, parce qu'elle aussi, donc c'est en écoutant une pub, en voyant une pub à la télé sur la BBC, je crois, le site de British Airways, qu'elle a entendu. Qu'elle a entendu c'est l'acmé, je crois, il me semble.
Je crois, oui.
Ouais, qu'elle a entendu l'acmé, qu'elle a été séduite, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de Sud-Africains, parce qu'il y a un très bon professeur de chant, enfin, le directeur de l'école de chant de Cape Town, qui est italien, d'ailleurs, et qui, après, envoie pas mal ses petites pouliches ou poulains Qu'est-ce qu'il y a?
Non, l'expression me faisait rire, pouliches ou poulains.
Oui. en Europe. Voilà. La question de la formation, évidemment, elle est essentielle. Et d'ailleurs, il y avait eu un concert il y a quelques temps au Théâtre des Champs-Élysées où là aussi, on peut se poser la question, les voix d'Afrique, bizarre comme intitulé de concert. Enfin bon, voilà, on peut y réfléchir. Et en même temps, pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce concert avait pour vocation, il y avait quelque chose de caritatif, et justement de construire un conservatoire en Afrique. Bah, tout ça, c'est très à l'américaine finalement. Voilà, les storytelling, le fait de mettre l'accent sur le fait que ce soit des voix africaines, jusqu'à ce que ça se normalise, effectivement.
Oui, Lucille Como.
Et alors, la deuxième chose, est-ce que vous trouvez ça intéressant, justement, parce que ce sont des artistes qui le font presque tous, de mélanger dans les albums qu'ils sortent et dans les récitals qu'ils donnent, des airs traditionnels de leur pays d'origine et l'opéra classique extrêmement institutionnalisé tel qu'on le connaît. On n'arrive jamais, enfin moi j'arrive jamais à savoir si c'est vraiment une stratégie, si c'est quelque chose de profondément sincère de leur part, et je sais pas si c'est une bonne idée musicalement. Je suis toujours un petit peu gênée devant ce type de mélange là.
Mais c'était pas le cas pour Pretty Yandé, hein.
Non, Pretty Yandé non. Non, mais en l'occurrence par exemple Rachid Ben Abdeslam, il fait ça aussi. Serge Kakoudji, il a fait un spectacle où il mélangeait du baroque et des airs traditionnels congolais, donc c'est quelque chose qui revient souvent.
Emmanuel Giuliani.
Là, j'allais dire, c'est un peu au cas par cas, ça peut marcher, être magique. Moi, je me rappelle un récital de Kirite Kanawa à l'Opéra Garnier, où elle avait chanté accompagnée au piano, des mélodies et des airs d'opéra, et elle avait fini a cappella par une mélodie maori qui visiblement l'accompagnait depuis toujours, et je n'oublierai jamais, je me rappelle encore l'émotion, et on s'était pas dit, tiens, elle nous fait ça, parce que, ou on lui a demandé, évoque la musique traditionnelle de ton pays, c'était sublimissime. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, ça dépend vraiment...
Au cas par cas.
Au cas par cas.
Vous avez évoqué le TC, le Théâtre des Champs-Élysées, Anna Sigalevitch. On parlera le lundi 12 décembre, sauf erreur, de la production Don Giovanni, montée par Stéphane Brunswick. C'est une reprise, mais ce ne sera pas le même plateau vocal. Juste en dire un mot, parce que ça commence en fait...
Le 5, ça commence lundi.
Ça commence lundi prochain. Ouais.
Mais c'est une production que j'avais beaucoup aimée.
C'est pour ça que j'ai très envie d'y aller.
Voilà, lors de
grâce
cette création, bah, j'espère que vous allez aimer aussi. Voilà. Et puis c'est Jean-Sébastien Bou qui chante Don Giovanni. Moi, j'adore Jean-Sébastien Bou, je trouve que c'est un grand chanteur, pas encore, enfin, qui a pas la carrière encore qui mérite, je trouve. Et c'était déjà le Don Giovanni de Varnikovski,
à Bruxelles,
de Yvan Alexandre, il est dans une sorte de je sais pas comment dire, de cycle Don Giovanni. Et donc je pense qu'il faut aller découvrir cette
production. On en dira beaucoup plus.
C'est toujours Jérémy Rohrer qui
dirige. Ce qui n'est pas mal non plus. On en dira plus et beaucoup plus le lundi 12, mais comme ça, on annonce les premières représentations à partir de ce lundi 5 décembre. Et nous poursuivons le temps, et nous courons après le temps pour cette dispute musicale avec le nouveau disque de Murray Peraya, consacré aux suites françaises de Jean-Sébastien Bach. Le pianiste et chef d'orchestre américain vient de signer à 69 ans son arrivée sur Deutsche Grammophon avec ce double CD, alors qui est enregistré en fait en 2013 dans la suite de la radio de Berlin. Avant de parler de ce disque, on en écoute un extrait, la gigue de la suite numéro 5. Maraya qui signe son entrée chez Deutsche Grammophon avec ce double CD, donc des suites françaises de Bach. Anna Sigalevitch, pour commencer.
Moi, Murray Perahia a une façon d'aborder Bach qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il avait gravé déjà des variations Goldberg magnifiques, je trouve, en 2000, des partitas aussi un petit peu plus récemment, et les suites anglaises aussi. Et alors, c'est intéressant parce qu'il utilise le piano vraiment dans toutes ses capacités modernes, c'est-à-dire qu'il met carrément de la pédale, il va au fond du clavier, c'est un piano qui est puissant et sonore, mais c'est pas non plus un piano romantique à la Kempf, par exemple. Là, pourtant, il utilise un peu de pédale, etc. Mais il y a une chaleur. Je trouve que tout de suite, quand on écoute les premières notes, on est transporté, on est ailleurs. C'est-à-dire un phrasé qui est extrêmement chantant, en même temps quelque chose de naturel, une façon de faire émerger une voix, une autre. La façon dont il fait toutes les reprises et les idées qu'il apporte à chaque reprise, tout le temps. Enfin, il y a quelque chose d'inspiré et en même temps de très naturel. Donc, pour moi, franchement, je trouve que c'est aussi bien que Gould. Dans un autre genre, pour les suites françaises,
regarde avec inquiétude à Emmanuel Giolini quand elle dit des choses pareilles à Anna Sigalevitch.
Non, au contraire, moi.
Craignant.
Non, quitte votre à dire réaction. Une horreur, moi je n'aime pas beaucoup Gould dans Bach, donc j'aime infiniment
Perahia.
Ah
ouais,
Perahia.
C'est pas mal ça comme
infiniment
phrase aussi.
Il y a vraiment une chaleur et en même temps une justesse stylistique, c'est ça qui est étonnant. On se dit oui, c'est ça. Il transforme pas les choses, il les arrange pas, et en même temps, il y a une tendresse, il y a une fraîcheur, il y a une lumière qui est, je trouve, absolument magnifique dans ce disque.
Emmanuel Giolini.
Oui, je ne vois pas quoi rajouter, sinon que quand on lit le livret, les propos de Murray Perahia sur la musique de Bach, c'est exactement ce qu'on pense de la façon dont Perahia joue Bach. C'est-à-dire, il parle à la fois de la mélancolie et de la joie, du côté très très concret, très dansant, très très spirituel au sens de l'esprit, oui. Et aussi très spirituel au sens de la mystique et de l'âme. Enfin, il définit en mots très simples ce que vraiment sa manière de jouer, et c'est très sensible. Vous avez parlé notamment des partitas ou des variations Goldberg, c'était absolument admirable. Et là, c'est tout aussi beau, et on le ressent presque encore plus parce que ces pièces n'ont l'air de rien. On se dit techniquement ce qu'il dit lui-même. Elles ne sont pas horriblement difficiles comme peut être le clavier bien tempéré. On l'attend, son clavier bien tempéré, d'ailleurs. Là, maintenant, on
bah
se
oui,
dit,
là, faut qu'il
voilà,
fasse,
il faut qu'il le fasse. Voilà.
Si tu nous écoutes.
Voilà. Donc, il y a à la fois une transparence, une simplicité, un naturel, comme il joue Schubert, par exemple. Il y a des moments où on retrouve ces sonorités qui sont à la fois feutrées, qui laissent passer de l'air, mais qui sont très profondes, comme vous
et
l'avez
ouvertes.
Dit. En pianiste, Anna, on sent bien vos propos de pianiste vous-même, la manière dont il va à fond dans le clavier, mais sans jamais être lourd, pour aller en chercher toutes les harmoniques, mais il n'empâte pas. Et puis, on l'a entendu dans cette gigue, ce génie à la fois faire du surplace qui avance. Dans la précédente émission à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, on parlait de Philip Glass et de Einstein on the Beach, ces moments complètement dû à Bach d'ailleurs, où on se dit c'est toujours la même chose, mais non, ça bouge, ça change, comme quand on est sur une route en vélo, une légère pente, l'air dans les cheveux et on y va. Et ben c'est exactement ça. On part, on a l'impression qu'on ne bouge pas, mais on voit que le paysage défile, donc oui, on bouge. C'est formidable.
Bon, ben dites-moi, Lucille Comeau, ça vous a pas inspiré cette écoute
C'est typiquement le type d'album que je n'arrive pas à commenter. Mais c'est parce que aussi, je n'ai pas assez de connaissances, vraiment, honnêtement, sur le piano.
Ça ne produit pas d'effet sur vous ?
Ça produit un effet que je n'arrive pas à analyser. Par exemple, je suis totalement paralysée par le fait de devoir comparer avec Gould ou comparer avec d'autres pianistes. Moi, la comparaison pianiste, c'est vraiment quelque chose, je me retire, je ne sais pas faire.
Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant que vous disiez ça, Lucille, parce que ce n'est pas un disque qu'on a envie d'analyser en même temps. Il y a des disques qui se prêtent à ça. Par exemple, les suites françaises de Gould, on a envie de les analyser. Même celles d'Andreas Schiff ou de Kempf, on se dit, ah, là, il y a une telle évidence, il y a quelque chose qui émeut, qui vous fait rentrer à l'intérieur de vous et qui vous élève en même temps. C'est ces deux choses-là dans ce disque. Et c'est vrai qu'on a envie, c'est comme un cocon, on a envie de les écouter chez soi et pas forcément d'en disséquer toutes les ficelles, mais en tout cas, comment dire, d'en disséquer toute la construction. Donc je comprends que vous disiez ça.
Emmanuel Duhany.
Oui.
Vous comprenez aussi?
Je comprends tout à fait.
Très bien. Mais on va garder du temps pour Marianne Grébassa, puisqu'on a, on peut pas dire beaucoup plus sur
Murray Perraya.
Si. Non, mais vous voulez un peu de temps pour Marianne Grébassa ou pas?
Oui.
Bon. Alors, on en reste là pour l'instant avec les suites françaises.
Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'a touché Perraya, il l'a transformé en or. Enfin, bon, vraiment, la discographie de Perraya, Perraya en concert, voilà, il faut profiter des occasions.
Schubert,
il
Brahms,
vient à Paris,
aussi,
c'est Mozart, c'est concerto de Mozart. Quand on n'a pas beaucoup de temps, on écoute le mouvement lent du deuxième concerto de Mozart. Voilà.
Voilà. Et il prépare son clavier bien tempéré. Hein.
Dans les
quelques interviews qui ont accompagné la sortie de ce disque.
Ah, c'est vrai, il le dit.
Mais oui. Et ce changement d'écurie, ce sera donc chez Deutsche Grammophon, a priori. Il sera en concert mardi soir à la Philharmonie de Paris, Murray Perraya, à la tête de l'Académie Saint-Martin in the Field, pour jouer, ça c'est la Philharmonie, donc du Beethoven, en ce moment c'est Beethoven. Et c'est une occasion, évidemment, d'aller voir et écouter Murray Perraya.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons donc cette dispute musique avec le disque de la mezzo-soprano Marianne Grébassa intitulé Oh Boy, sorti chez Erato, joli titre pour ce programme d'air de personnages masculins chantés donc par des mezzo-sopranos. C'est le premier disque de la chanteuse, il a été enregistré avec le Mozarteum Orchestra dirigé par Marc Minkowski qui suit de très près la carrière de Marianne Grébassa. Beaucoup de Mozart au programme, aussi du Chabrier, du Gounod, du Meyerbeer, de l'Offenbach, ou encore, c'est votre choix, comme ici, du Massenet avec cette aire issue de Cendrillon. prince charmant de Cendrillon, Marianne Crébassa. Vous brûliez d'en parler, Anna. Donc je commence avec Emmanuel Giuliani.
Mais pourquoi vous vous aujourd'hui, Arnaud?
Pour la blague, Anna, vous savez bien.
Je terminer en apothéose. Alors c'est un programme très très intéressant que Marianne Crébassa a choisi, parce que comme on vient de l'entendre, il y a des ouvrages tirés d'opéra français, non pas méconnus, mais qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'entendre, comme ce très beau Cendrillon de Massenet, on avait entendu il y a quelques années à l'Opéra Comique. Mmh. Et là, vraiment, la mélancolie du personnage, elle le traduit à merveille. On a aussi Fantasio de Offenbach, en préfiguration.
Elle va chanter, voilà, au mois de février.
Elle va chanter, exactement. Donc c'est un petit appetizer par rapport à cette production qu'elle va chanter.
Mais polyglotte, Emmanuel Giuliani aujourd'hui.
Enfin, oui, si on s'en tient à un ou deux mots, oui, on va dire oui. Et puis, bon, des choses plus connues avec le Faust de Gounod ou l'Étoile de Chabrier, ou pas connues du tout, très peu, à part des spécialistes comme l'opérette Mozart de Reynaldo Hahn.
Écrite par Sacha Guitry pour Yvonne Printemps, génial.
Absolument, ouais. Absolument. Ou ce très, très bel air d'Ambroise Thomas qui ferait mentir l'adage comme quoi il y a la bonne musique, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas. Hein. Mais là, c'est vraiment très beau, ce Psyché qui est magnifique. Et puis Mozart, bien sûr, puisque Marianne Crébassa s'est fait connaître du public, se fait encore connaître du public par Mozart, d'une part Lucio Silla et d'autre part Chérubin, qu'elle chante un peu sur toutes les scènes. C'est une voix extrêmement, on dit prometteuse, mais elle commence vraiment à tenir ses promesses.
Hein, promesses.
On n'est plus au stade des promesses, avec une tessiture très longue, de beaux aigus, vraiment une ligne de chant très, très intéressante. Ce qui m'a un tout petit peu laissé en retrait par rapport à ce disque, mais je ne sais pas si c'est de son fait ou du fait de la direction de Marc Minkowski, qui a fait et qui fait encore énormément pour nous faire connaître, et il faut remercier Marc Minkowski pour nous faire connaître cette chanteuse, c'est que je trouve par moment le rapport voix-orchestre est pas absolument parfait. Il ne la laisse pas toujours vraiment respirer. C'était pas du tout le cas ici. Mais dans les Mozart, il y a des moments un peu précipités. Et donc, ça ne permet pas, me semble-t-il, à la chanteuse d'être aussi subtile, aussi variée qu'elle pourrait l'être et qu'elle peut l'être sur scène. C'est le petit bémol que je mettrais.
Lucille Gaumont. Sur Marianne Crébassa.
Non, puni, quoi. Moi, je vais avoir 10 secondes à la fin.
Mais non, il reste plein de temps, Anna.
Parce que moi, j'aime beaucoup l'album et en même temps, j'ai cherché des choses à dire un peu contre l'album. Et je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai beaucoup
bel
aimé
esprit.
Au début. Et alors, ce matin, je l'ai réécouté. Et alors, le Massenet me contredit totalement. Donc, je suis un petit peu embêtée qu'on ait passé celui-là. Mais en l'occurrence, je trouve que tout est quand même, pour le coup, assez en force. Et qu'il y a une uniformité quand on passe d'un morceau à l'autre parfois qui me gêne un peu. Et en fait, je pense que c'est lié à justement à la facilité qu'elle a, qu'elle a une voix incroyable, vraiment incroyable. Et on a l'impression que tout lui est très facile. D'ailleurs, elle le dit dans une interview du Monde il y a quelques temps que c'est ça qu'il faut, enfin c'est à ça qu'il faut qu'elle veille en fait, parce que pour elle c'est facile. Et elle a une voix tellement pleine que parfois c'est tellement riche, c'est presque roboratif. Il y a un effet un peu indigeste. Et c'est très en force sur les Mozart. Moi, je suis pas très convaincue, par exemple. Je trouve que c'est presque trop uniforme, et trop uniforme dans la richesse et dans la force, quoi. Voilà.
Anna Segalevich.
C'est vraiment pour dire quelque chose.
La France entière attend de connaître votre opinion sur le disque de Marianne Crébassa. Vous avez plein de temps pour le faire.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, cher Arnaud. Bon, moi, j'ai découvert Marianne Crébassa il y a un an et demi. C'était au Festival Radio France. Une répétition
à Montpellier.
Une répétition de Fantasio. Et je la connaissais pas, hein, je dois dire. Elle était de dos, enfin dos à moi.
Heureusement que je vous ai laissé du temps. Hein.
Oui, ben oui, vous m'avez dit que j'avais du temps. Donc, elle était dos à moi. Et donc, c'était Fantasio. Et tout d'un coup, j'entends une sorte de voix qui remplit mais tout l'espace, mais d'une façon démente. Je me dis, mais d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment un choc. J'ai eu vraiment un choc en l'entendant la première fois, parce que c'est une voix qui est d'une profondeur, qui est d'une densité, et elle a une puissance, une projection qui est, mais enfin, complètement ahurissante, parce qu'en plus, elle est, c'est plutôt une jeune fille longiligne, fine, voilà, qui bon. Et je dois dire que ça a été un vrai choc. Elle est pas encore si connue que ça à Paris, notamment. Elle a chanté beaucoup à Salzbourg grâce à Minkowski.
Elle est pas du
Montpellier,
tout connue.
Elle a beaucoup.
Elle est pas du tout connue à l'Opéra de Paris, puisqu'on attend toujours qu'elle y fasse ses
débuts. Elle a donné un récital à l'Opéra de Paris. Là,
oui, enfin, non, sur le plateau.
Mais bon,
lyrique,
effectivement. Alors qu'elle était à l'Académie, pourtant, jeunes chanteurs.
Il y a eu des problèmes de date. Hein. Elle explique que elle est pas du tout ostracisée, parce que très vite, on en conclut que. Et elle tient à dire que c'est parce qu'il y a eu des problèmes de planning et pas du tout qu'elle était interdite de séjour.
Voilà. Parfait.
Donc, en tout cas, voilà, toujours est-il que c'est une voix très impressionnante. Moi, le côté roboratif, je suis pas d'accord. Effectivement, c'est une voix très, très dense, très, très nourrie, mais qui, à mon sens, a aussi de la fraîcheur. Par exemple, dans Chérubin, dans l'air Non So Pew, moi, je sens l'empressement, la jeunesse, la fougue, l'intranquillité. C'est une voix qui est très, très vivante, en fait, et qui, elle me fait un petit peu penser à Federica Vanstad, dans le côté ambré, cuivré et très sensible. Et justement, je trouve qu'elle a ces deux choses-là. Après, c'est pas une voix, comment dire, très simple, naturelle, comme on peut entendre chez certains mezzo. Mais c'est beau, justement. Moi, j'aime bien le côté très travaillé, le côté par moments presque suranné dans certains airs stylistiquement, mais justement je trouve ça très beau parce que elle a une très grande personnalité je trouve vocale et dans sa façon de choisir son programme. Donc moi je la trouve éblouissante, franchement.
Lucile, comment ?
Moi, je trouve que justement, le côté très cuivré va à l'encontre de la sensibilité. J'ai du mal à comprendre comment une voix peut être aussi riche et en même temps variée, par exemple. Je trouve qu'il y a pas. Je cherche la faille, je sais pas comment dire. J'aimerais bien que parfois il y ait un peu d'air qui passe.
Mais
ou que les aigus soient moins cuivrés, par exemple, parce que les aigus sont aussi riches que le reste. Et du coup,
c'est pas vrai. Dans le Roméo et Juliette, il y a des choses qui sont extrêmement délicates. Là, dans Cendrillon qu'on a entendu, il y a des choses qui sont très délicates aussi. Et même dans Lucio Silla, dans Il Tenero Momento, qui est un grand air qui dure une dizaine de minutes, où là, il y a tout. Elle peut déployer voilà, les graves, les aigus, les vocalises, les fortes et les pianos. Il y a un petit peu tout dans cet air. Moi, justement, je trouve que ça respire. Je trouve pas que ce soit une démonstration éblouissante, technique, du début à la fin. Pas que.
En juge de paix, Emmanuel Giuliani.
Oh non, pas du tout en juge de paix. Il me semble, pour aller dans le sens de Lucile, peut-être la diversité qui vous manque naîtrait d'un encore un peu plus de soin dans l'articulation et dans la prononciation, qui peut être un tout petit peu flou par moment et qui évidemment donnerait ces petites aspérités, ces petits rebonds avec les consonnes, etc., qu'on n'a pas toujours forcément. Moi, je pense qu'il y a une question d'orchestre aussi pour cela. Et puis, par rapport, disons, à vous évoquiez Federica Vonstad, il manque un tout petit peu de langueur. Voilà. C'est peut-être ça, et c'est vrai que dans son Chérubin, il est merveilleux de jeunesse, d'éclat. Il manque ce tout petit soupçon de morbidité, enfin très léger, que justement une Vonstadt, mais Vonstadt c'était un miracle, pouvait avoir.
Mais elle a quelque chose en commun, non ?
Mais elle va certainement, et puis où elle va conquérir autre chose. Enfin, il faut vraiment à suivre, absolument.
Et puis il faut dire aussi que ce type de disque aussi permet pas évidemment de voir la richesse de l'évolution d'un rôle. Enfin, on est sur
et
un programme.
Une émotion,
on,
c'est
on
plus
dit,
difficile.
On dit ah tiens, j'ai envie d'écouter cette terre de Lucio Silla et de picorer. C'est vrai que c'est pas un album qu'on va écouter forcément à la suite, parce que là, pour le coup, c'est roboratif en soi. Je pense que c'est aussi lié à l'album programme, et que c'est autre chose sur scène, ce sera autre chose au disque quand ce seront des opéras
en
entier.
Mais ça donne très envie de la voir sur scène, voilà. Typiquement. C'est le genre d'album qui donne envie de voir.
Oh boy, ben on va la voir sur scène, Marianne Cremas, je rappelle, le disque paraît chez Erato. Elle sera donc dans Fantasio d'Offenbach au mois de février, au Théâtre du Châtelet, mais ce sera l'ouverture de saison de l'Opéra Comique, puisque la salle Favart est en travaux. Donc février, Fantasio, Offenbach, nous irons. Et avant de conclure cette émission, Lucile Como, un autre type d'air, celui du jeu de la dispute. Un rappel d'abord du jeu d'hier soir.
Oui, le dernier film de Joao Pedro Rodriguez, l'ornithologue, est produit entre autres par une école d'art française. Laquelle ? Et la réponse est le Frénois, Studio National des Arts Contemporains.
A gagné ce soir des places de cinéma encore pour le film Marosa de Briante Mendoza. Lui aussi un film dont nous avons parlé mardi soir. Quelle est la question, Lucile ?
Quelle actrice française a tenu le premier rôle d'un film de Briante Mendoza ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Sigalevitch, Emmanuel Giuliani, Lucille Como, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions. Si vous faites la collection des petits salons, il y a un podcast séparé. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pineau. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard, réalisation Daniel Finot. Rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle dispute, cette fois consacrée à la littérature, en compagnie de deux Elisabeth, Elisabeth Franck Dumas et Elisabeth Philippe. À notre affiche, L'oubli de David Foster Wallace, publié chez L'Olivier. Cru de Philippe Forest chez Gallimard et Martin Eden de Jack London qui paraît en folio. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.